récupérer. Hop. Un producteur, quand il arrive ici, première chose qu'il fait, il va s'identifier là. Il rentre son numéro de producteur et là, il a toute sa production. Il colle ça sur chacune de ses palettes. Le jaune ici, ça veut dire que c'est vendredi, ça a été récolté vendredi. Mes collègues, en scannant, ils savent quel producteur a livré. Une fois que la marchandise sera vendue, on sait d'où vient la marchandise et chez quel négociant elle part. Ça, c'est la traçabilité montante. On aura la traçabilité descendante avec les codes tout à l'heure, on les verra sur les cartons de tomates, ce sera plus simple. Ou d'artichaut là-bas, sur le petit violet, on va les voir, il en reste encore quelques-uns.
Dans les caisses de choux.
Dans les caisses de choux, ouais. Donc ça, c'est très important, c'est toute la traçabilité. C'est la première chose que tu fais quand tu arrives.
Ouais. Avant de décharger, ouais.
Ça avant de décharger. Nous, on est allé dans le sud de l'Italie, là, à Bari, on a fait un marché de gros, Gilda, on était ensemble. Et on a trouvé des choux verts de Saint-Malo, des choux fleurs verts de Saint-Malo, et cette étiquette était toujours sur la palette. Parce qu'elle a fait 2500 km et elle a tenu à la palette.
Ouais.
Et même pour nos producteurs, c'est important de voir que.
Bah, ça arrive au bout.
Ça arrive au bout.
On fait pas ça pour.
Parce qu'on pense qu'elle va s'arracher dans les camions, etc. Bon, elle tient. Dans chaque cajot de producteur, vous avez ça. 816, c'est le numéro de la station de Brodaguer. 363-040, c'est le numéro producteur. 394, c'est un code que le producteur a sur un carnet où il sait quel jour et quelle parcelle il a récolté son chou-fleur. C'est encore plus facile sur les tomates parce que vous avez un code en 4 chiffres. Le premier chiffre, c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est le jour de la semaine où ça a été récolté. Les 3 autres chiffres, c'est le jour de l'année. Il y a 25 ans, le premier produit, c'était le chou-fleur, le deuxième, c'était la pomme de terre. Et la pomme de terre a décliné. À l'époque, on avait la tomate grappe et les tomates qui étaient vraiment un petit légume de diversification qui a pris la place progressivement de la pomme de terre. Demain, on ne sait pas quel légume sera phare. Peut-être que le topinambour va refaire un tabac, on n'en sait rien. La tomate, elle s'est développée par la tomate ronde au milieu des années 90, c'est la tomate grappe qui a pris le dessus. L'UCPT, on n'aurait pas eu la tomate grappe à ce moment-là. C'est pas seulement la coopérative qui aurait diminué, mais c'est les producteurs qui auraient moins eu de débouchés, etc. Et donc, toujours conserver cette recherche et cette innovation est importante pour ne pas louper de marché. C'est très important d'avoir un service innovation et d'avoir des producteurs qui testent constamment des produits. En ce moment, on teste des gros radis. On a des producteurs d'ail, ils ont commencé, c'était 3, cette année c'était 4, les prochaines ils seront 6, parce qu'on a fait notre place sur un marché progressivement. Il y a effectivement un mouvement de migration des producteurs Léonard. Ici, historiquement, c'était la pomme de terre et le coco. Le CPT s'est construit autour de la pomme de terre. Et les Léonards ont importé de chez eux le chou-fleur et l'artichaut. Comme avec les gens de Saint-Malo, ça fait plus de 40 ans qu'ils se sont réunis au sein du CERAFEL et pour créer la marque Prince de Bretagne. Prince de Bretagne réunit 6 coopératives. Avant, c'était un comité économique de bassin. Et aujourd'hui, c'est une association d'organisation de producteurs. Dans le CERAFEL, vous avez la terre de Saint-Malo. Il y a l'UCPT, et pour le Finistère, il y a la Cicade Saint-Paul-de-Léo, qui est bretonne et Socoprime. Vous avez Triscalia pour la partie légumes frais. Les producteurs cotisent tous un petit peu, par tête de chou, par kilo de tomates, pour financer le marketing Prince de Bretagne, pour financer la recherche et expérimentation. Les producteurs de tomates vont payer pour le marketing tomate. Si les tomates décident des actions, c'est prélevé sur les producteurs de tomates. La création variétale, les producteurs de chou-fleur, cotisent pour la création variétale des choux-fleurs, ils ne cotisent pas pour la création variétale de l'artichaut. On a aujourd'hui des producteurs qui sont déjà installés en production bio sous serre. Simplement, il n'y a pas d'accompagnement au niveau technique pour savoir la pérennité de leur rotation, etc. La seule conversion qu'on a aujourd'hui, c'est une production sous serre qui se convertit en bio. Et il faut accompagner ces gens-là pour qu'ils se développent. Les stations d'expérimentation, elles sont là pour prendre les risques à la place des producteurs. Parce qu'on a des fonds publics, on a des cotisations, etc. On a des soutiens de la région, du département, de l'État. S'il y a des erreurs à faire, il faut absolument qu'elles soient faites en station. Donc, voilà.
Là, si j'avais ça chez moi pour stocker ma pizza le vendredi soir, ce serait quoi ? Radis noirs.
Et là, vous avez une betterave golden.
C'est pas demain comment ils vont évoluer.
Peut-être demain ce sera des légumes phares, etc. N'empêche que au niveau de l'organisation ça représente peu, mais pour certains producteurs c'est important. C'est des compléments qui sont très appréciables.
Et vous savez comment je fais ça moi ? Je le prends au menu et je mélange avec de la mayo pour faire des toasts apéro.
Bah nous en fait avec le groupe Procette on était au Vieux Gréement. À un moment, on a fait du caviar d'artichaut sur des feuilles d'artichaut. On n'avait plus de feuilles d'artichaut, il n'en restait que du radis noir. On a fait des tranches de radis noir. Et on a mis le caviar d'artichaut. Et on s'est aperçu que ça neutralisait le piquant du radis noir. Et ça faisait un truc super.
Et là, pareil que le chou, c'est quelque chose qui est formidable au niveau santé en antioxydants.
Ça, c'est des chambres froides. Vous voyez les bouches en haut là ? C'est le froid humide. C'est par là qu'on injecte l'humidité et le brouillard. Lundi, les producteurs vont couper leur chou-fleur et livrer. Ça va être mis en vente mardi matin. Les négociants ont le produit disponible à partir de la fin du marché, donc autrement c'est 10h. Ils peuvent venir le chercher. Donc dans la journée, ils font leur lot, ils récupèrent leurs marchandises dans la soirée.
Et
ils font l'expédition soit dans la soirée, soit le lendemain matin. En 48 heures, c'est chez les destinataires finales. En frais, ça va beaucoup plus vite. En frais, c'est un produit hyper sensible. Les producteurs annoncent la veille ce qu'ils vont récolter le lendemain matin. Les fraises sont vendues avant d'être récoltées ou en cours de récolte. Les fraises sont livrées à midi ou à 14h. Midi quand c'est pour le marché de Lyon, 14h quand c'est pour Rungis. À 14h, les négociants prennent possession des fraises et les expédient sur Rungis.
C'est un délai de mise à l'étalage. Mais après, à l'étalage, il va dire combien de temps le chou-fleur.
Ah, conservation.
Ouais.
Ça dépend comment il a été transporté, comment il a été stocké par la grande distribution, parce que parfois c'est la grande distribution qui conserve mal. Après, sur un étal, un chou-fleur, ça peut tenir 2, 3, 4 jours. Parce que ici, nous, ils vont rentrer, ces chou-fleurs-là. Vous allez voir tout à l'heure, ils vont passer en chambre de froid humide. Froid humide, pourquoi ? Parce que le froid, ça assèche les produits. Si vous ne filmez pas les légumes dans votre frigo, ils vont s'assécher. Donc en fait, on refroidit dans les chambres humides à 4 degrés, mais avec 100% d'humidité. Et le refroidir à 4 degrés à cœur, ça va permettre de transporter dans les bonnes conditions, parce que les camions frigo, ils ne font que maintenir la température, ils ne refroidissent pas les produits. C'est un exemple de diversification des produits standards qu'on pense, le petit gueulet hein, qui s'appelle le gueulet de Provence. Et en fait, il s'est très bien plu en Bretagne et ici, depuis les surfaces depuis 20 ans ne font que se développer. Alors, là vous avez 7 variétés de tomates minimum.
Ça c'est la Green Zebra, moi c'est celle que je préfère. Là elle est mûre, on va manger en salade, même si elle est verte. Elle n'ira jamais plus loin. Vous avez de la Golden. Vous avez de l'olivine allongée, ouais. Vous avez de la Red Zebra, ouais. Vous avez de la San Marzano, ouais. La cœur de bœuf,
c'est joli en plus.
La noire de Crimée.
Et la noire de Crimée, et vous avez de la rose de Berne. Là.
Oui, la rose de Berne.
Ça, c'est un producteur qui a toutes les variétés chez lui. Hein. Et il fait chez lui ces colis-là. Là vous avez des colis variétaux. Noir de Crimée, on en met encore des salons d'antan. On en met de toute maturité. Pourquoi ? Parce que on se celles qui vont être tout de suite mûres. C'est des variétés qui ont été moins sélectionnées comme c'est des variétés anciennes. Donc là celle-là elle va être mûre à manger tout de suite, elle est très bonne, très fruitée. Et on en met des moins mûres, parce que sinon votre cajou il va être mûr en même temps et c'est sûr que vous en avez acheté la moitié.
Les gens ils disent
c'est pour ça aussi qu'on récolte les celles de maturité du temps.
Voilà.
Et là, ici, l'été c'est plein de carton pour la tomate, hein. La tomate c'est majoritairement en carton. Et l'hiver c'est les colis bois qui sont dehors, donc c'est majoritairement des colis bois. Donc là vous avez tout un tas de cartons de Prince de Bretagne. Et en fait, bon, bah, les cartons sont livrés à plat, bien sûr, ils sont montés, mis en volume ici, hein, collés. Parce que transporter du carton déjà plié, je vous raconte pas.
Hein. L'emballage a un coût, hein, donc si on peut diminuer ces coûts-là, simplement notre emballage, c'est aussi notre mode de transport. Les colis bois, c'est tous des fournisseurs costarbricains. Nos cagettes de bois, elles sont toutes faites dans les Côtes d'Armor. Par contre, le marché du carton, c'est un marché.
C'est parce que vous livrez jusqu'à l'autre bout de la France que vous êtes obligé de conditionner autour ?
S'il y avait une partie de votre production qui était pour la Bretagne uniquement ou pour les Côtes d'Armor,
non, les gens, ils achètent leurs légumes dans des colis. Hein. On a des palox, hein, et ça, c'est quand on envoie des volumes vers la surgélation.
C'est plus pour le marketing que pour l'aspect conservation des produits.
C'est notre seul support marketing. Ouais. C'est le seul. Mais vous allez sur le marché, ils sont dans les mêmes colis, quoi. Parfois, ils sont même dans nos colis. Donc, ça prouve bien qu'ils sont costauds. Et que, et puis nos légumes traversent l'Europe. Quoi, hein. On exporte aujourd'hui, je crois, en Russie. Donc, on fait tout. Ça vient, ces colis-là, ça vient de l'Europe du Nord, anglais et belge, qui estiment que c'est plus sain de mettre des produits dans ces colis-là que dans des colis bois. Pourquoi ? Parce qu'ils voient la bactérie qui peut se mettre sur le bois, et ça, on peut les infecter à l'eau de Javel. Alors les Allemands, ils préfèrent le bois, comme nous, hein, ça fait plus naturel, etc., ressources durables, machin. Certains préfèrent le plastique. En fait, nous, on s'adapte au marché. Vous avez des choux dans des colis bois, c'est la norme. Vous avez des choux dans des colis carton, vous avez des choux dans des colis plastique.
Bon, pour la cheminée, moi, j'ai choisi.
C'est plus facile, la cagette. En tout cas, ça fait moins de flammes bizarres, et puis ça coûte moins cher pour le ramonage. Ici, vous êtes dans un hall de nuit. Par rapport à la logistique, les négociants qui veulent, avec leur transporteur, venir chercher des légumes à 23h, 1h, 2h du matin, ils prépositionnent leurs marchandises ici. Les portes sont fermées la nuit, ils ont un code pour rentrer. Ils sont surveillés par caméra parce que sinon les fenwick disparaissent rapidement. Et ils chargent à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit, par rapport à la logistique. Vous voyez, là, c'est les marées de Bretagne qui ont acheté et ça part dans l'Or Atlantique, dans les Sorinières. C'est marqué sur les cajous, hein. 12-14 degrés une tomate, jamais en dessous. Jamais en dessous une tomate. L'UCPT ne fait pas d'appro. Elle sert parfois d'intermédiaire dans les commandes de graines, parce que l'UCPT fait une commande groupée à l'OBS, par exemple, de graines, ou aux autres firmes de graines, mais elle ne fait pas d'appro. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir être rigoureux, qu'il y ait des charges, il ne faut pas qu'on ait de conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'un producteur à qui vous dites la cargaison de chou-fleur ou de fraises, on ne l'accepte pas, tu retournes avec et elle ne sera pas commercialisée parce qu'elle n'est pas conforme au cahier des charges. Il ne faut pas que le producteur lui dise bah, si c'est comme ça, ma facture d'engrais ou de machin, je ne la paye pas. Quoi. Là, il y aurait un peu conflit d'intérêt. Donc la coopérative sera en train de dire bah, ok, je te le prends et puis tu payes ta facture. Quoi. Le but, c'est la mise en marché des légumes et la promotion du légume. C'est que ça. Et c'est pour éviter tout conflit d'intérêt. C'est transparent. La mise en marché qu'on a, bah, c'est comme la criée au poisson. Hein. C'est extrêmement transparent. Un négociant ne pourra jamais nous dire qu'on ne lui a pas vendu assez de marchandises. S'il n'a pas assez de marchandises, c'est parce que lui, il n'a pas appuyé sur le bouton encadrant pour en acheter suffisamment. Il ne pourra pas nous dire « vous m'avez vendu trop cher par rapport à mon concurrent » parce que c'est lui qui appuie, donc c'est lui qui est responsable de son prix d'achat. Il y a beaucoup de règles entre nous et les négociants, de mise à disposition, de qualité des charges, etc. Mais sur la partie achat pur, acte d'achat, on a très peu de conflits, très peu de reproches, etc. Parce que c'est les négociants qui sont responsables de son acte d'achat.
Un producteur qui travaille avec vous, il doit l'ensemble de sa production passer.
Alors, par espèce. C'est-à-dire qu'un producteur qui fait du chou-fleur, qui livre du chou-fleur à l'UCPT, c'est la règle de la part totale. Il est obligé de livrer tous ses chou-fleurs ici. Pourquoi ? C'est une question de solidarité et d'esprit collectif. Un producteur qui vient livrer un peu de chou-fleur ici, qui vend son chou-fleur ailleurs par lui tout seul. C'est-à-dire qu'il a accès au marketing Prince de Bretagne, il a accès aux évolutions variétales, il a accès à l'expérimentation, à l'amélioration des techniques, en payant beaucoup moins que ses collègues. Au bout d'un moment, ce n'est pas acceptable. Par contre, s'il livre aucun brocoli, s'il livre tout son chou-fleur chez nous, et qu'il ne livre pas de brocoli, il peut livrer le brocoli à quelqu'un d'autre. On n'aime pas trop, mais on n'a pas de manière de le contrôler. Mais par contre, du moment qu'il livre un brocoli ou un chou-fleur chez nous, c'est la règle de la porte totale.
D'accord.
Par contre, ce qui nous embête, c'est qu'il aille vendre directement à des négociants, c'est qu'il aille vendre directement à des supermarchés, etc. Parce que ça déstructure l'organisation de marché, ça déstructure la solidarité des producteurs pour avoir mis un certain nombre d'outils en place et qui nous permettent de passer les crises. Par rapport aux autres producteurs de fruits et légumes en France, on résiste mieux aux crises en Bretagne que dans le reste de la France. Quand il y a des invendus en chou-fleur ici, les invendus sont mutualisés entre tous les producteurs. Donc chaque producteur touche un peu moins sur son chou-fleur pour mutualiser les invendus. Mais le producteur dans le nord de la France, quand il a un invendu, il a un invendu. S'il a 10 palettes du jour en invendu, eh ben c'est pour sa pomme. Nous, c'est mutualisé. Il y a des prix de retrait qui sont définis. Et toutes ces choses-là, ça a été défini par les producteurs.
Ouais,
c'est pas défini par les administratifs. On est dans une coopérative très légère. Je vous ai dit, l'UCPT avec les 4 stations de conditionnement, c'est à peu près, en moyenne sur l'année, en équivalent temps plein, c'est à peu près 140-150 personnes. Pour 160 000 tonnes de légumes produits. Pour 150 producteurs, d'un moment ou à un autre, investis dans le fonctionnement de la coopérative. Je vais dire, nous on est 30 personnes au siège à Paimpol, mais il y a 25 personnes dans le conseil d'administration. Le poids, il n'est pas le même que dans des coopératives plus grosses. Chez nous, c'est les producteurs qui décident.
La coopérative prend en charge une analyse de terre par an, par producteur. On a une aide informatique aussi pour les producteurs. On prend 50% de leur investissement informatique pour travailler la traçabilité de manière informatique. On a des aides aux bâches. Pourquoi on a des aides aux bâches? Parce que là encore, ce n'est pas trop le cas, mais comme vous voyez, à partir de mars, avril, les supérieurs prennent des coups de soleil, hein. Ils ne sont pas commercialisables. On aide aussi sur des flexibles qui se mettent dessous, qui évitent qu'il y ait du cambouis qui viennent frotter pour les choux, etc. Voilà, on en est rendu à ce niveau-là de qualité.
C'est l'UCPT qui aide ou c'est l'Europe?
Alors, c'est l'UCPT via l'Europe.
Ouais,
pas totalement. Il y a des fonds qui sont prélevés sur les fonds de la coopérative. L'Europe finance une partie. Le secteur des fruits et légumes, il n'y a pas de subvention au niveau du producteur, au niveau de la PAC. C'est des subventions à l'organisation de la filière et aux coopératives, aux investissements collectifs. Et donc, c'est dans ces investissements-là qu'on tape pour aider les producteurs sur certaines démarches. Et de toute façon, toutes les démarches, c'est qualité, environnement, qualité du produit et maîtrise de l'environnement. Aider au développement de la biologie intégrée dans les serres, etc. Il n'y a pas de secret, hein. De toute façon, aujourd'hui, c'est ces choses-là. Alors nous, on fait des analyses régulièrement de résidus, de choses comme ça. Hein. On fait à peu près 50 à 60 000 analyses sur tous les produits par an. Et l'année dernière, il y en a eu un non conforme.
Si on n'est pas meilleur en qualité et meilleur en précocité que les autres, eh ben, on ne passe pas. C'est sûr que s'il y a un arrêt du Gulf Stream, là, sur le coup, sur la bande littorale, il y aura un impact. Hein. Chez nous, ce sera quand même...
Ce qui n'est pas une hypothèse absurde.
Ce qui n'est pas une hypothèse absurde.
Oui, oui,
parce qu'on a des coûts de production plus chers que nos concurrents allemands et italiens. Parce qu'il faudra, par exemple, en fraise, les Allemands viennent de dépasser l'Espagne en production de fraises parce qu'ils ont une manœuvre même moins chère que l'Espagne. Parce qu'il n'y a pas de convention collective en agriculture en Allemagne, et quand il n'y a pas de convention collective, il n'y a pas de SMIC. Et comme en plus ils jouent sur des rotations de 2 mois avec des Bulgares et des Roumains, quand il reste moins de 2 mois en Allemagne, ils sont exonérés de charges, ils paient les charges du pays. Alors que nous, les gens qui viennent de pays de l'Est travailler ici, ils sont payés sur les mêmes normes que les Français, hein, au même prix, hein, même charge comprise. Les Allemands, c'est pas pareil. Ils sont payés brut entre 5 et 6 euros l'heure. Quand nous, on est au double. Donc, les atouts de la Bretagne, chez nous, c'est la qualité du produit, grâce à notre climat, et c'est la précocité. S'il fait chaud dans toute l'Europe, on ne vendra rien, parce qu'on est excentré, parce qu'on est plus cher. Par contre, dès qu'on peut jouer sur notre précocité, sur notre climat l'hiver, parce qu'il fait moins froid chez nous que dans le reste, bah là, on arrive à valoriser nos produits et avoir une marge sur nos produits.
Simplement.
Et avant, il y avait une vente directe
ici, où il y a eu un temps fut, mais c'est trop compliqué à organiser.
Ah bon?
Trop mobilisateur de main-d'œuvre pour pas grand-chose.
Ouais, c'est dommage.
Il n'y a pas le retour économique, mais il y a l'image.
Oui,
c'est l'image qui est important là-dedans.
Ouais. Mais à un moment, nous, on est une organisation économique de mise en marché. On nous demande des comptes aussi, et c'est les producteurs qui payent. Donc à un moment, c'est les choix aussi qui sont faits.
Il y a de retombées indirectes sur le long terme qui n'est pas négligeable quand tu fais gaffe à l'image.
Mais on fait gaffe à notre image.
Je sais bien, mais la vente directe, c'est une image. L'impact est meilleur pour vous de faire un peu de vente direct.
Alors, au niveau Trégor-Guello, peut-être. Au niveau Bretagne, j'en suis déjà moins sûr. Et au niveau France, c'est certain.
Mais aujourd'hui, on parle Trégor-Guello.
C'est vrai. France de Bretagne, c'est Bretagne Nord.
C'est bien.
Et après, comme je vous l'ai dit, à peu près 40% de la gamme est exportée. Alors, ça dépend vraiment des légumes. On exporte 60% du chou-fleur, on exporte 15% de la tomate. Le coco, on ne l'exporte pas. C'est consommé d'abord dans le sud-ouest. Le coco, par exemple, la production de coco, c'est consommé à 20-25% en Bretagne. 40 à 50% sud-ouest de la France. C'est pour ça qu'en coco, le mine de Toulouse et le mine de Bordeaux sont stratégiques. Je suis désolé, ce n'est pas le mine de Nantes ou d'Angers qui est stratégique. Ou encore moins le mine de Quatrain. Sans être désobligeant, bien sûr. En même temps, on est dans une réalité exportatrice. Après, nous, on est tout à fait preuve, on a des légumes via nos négociants pour les collectivités locales, etc. Ça, rien opposé à ça. Mais vous en trouvez des légumes France de Bretagne. Il suffit juste de regarder sur les emballages.
Oui, ben on va.
Mais ne me dites pas que vous n'allez jamais dans les grandes surfaces, je ne vous croirai pas.
Il y a un problématique énergie sur les serres. L'accès au gaz naturel dans les serres, parce que le gaz bonbonne aujourd'hui qui chauffe la majorité des serres de la presqu'île, coûte 30 à 40% plus cher. Donc ça fait un coût pour les serristes énorme. Le gaz est arrivé en 2010 sur le Trégor. et ça a permis aux communes, et notamment un certain nombre de foyers qui chauffaient au fioul, d'être raccordés au gaz naturel. Et ce qui a permis une attractivité du territoire. Il y a aujourd'hui quelqu'un qui est au gaz naturel qui chauffe au fioul, il fait un gain quasiment de 50% de sa facture de chauffage.
Mais elle augmente tous les 6 mois 5%.
Mais elle augmente tous les 6 mois. Mais alors comment on repart de plus bas?
C'est un choix de vie.
Il est venu pour les séristes, mais il a profité à tout le territoire. Et dans l'attractivité du territoire, ça joue énormément. Parce que sur le point de rythme, par exemple, les pouvoirs Perrault se posent sérieusement la question de se raccorder au réseau. Et conserver une entreprise comme les pouvoirs Perrault sur point de rythme ou sur le secteur, je pense que c'est pas neutre. Ça contribue à la compétitivité de l'ensemble du territoire. Les chaufferies bois, c'est un coût relativement plus élevé. Il y en a beaucoup sur Saint-Véol, parce qu'ils ont des surfaces de serre autour de 6 hectares. Nous, on a 120 hectares de serre pour 80 producteurs. Donc, un hectare de serre, ça vous paraît peut-être grand, mais à l'échelle du monde des serristes, c'est petit. Pour amortir ce coût-là, on est encore sur des surfaces de serre trop petites. Alors, on a des grosses serres, c'est parce que je dis, sur le Nord, il y a des très grosses serres. Et eux pourraient. Par contre, la majorité de nos producteurs sont sur un hectare et demi, 2 hectares de serre. Et par rapport à l'investissement, c'est pas encore aujourd'hui une solution rentable.
On va sortir par là.
Vous voyez, là, c'est la fin, le producteur a livré. Et il reprend des caisses pour le lendemain matin ou pour la semaine.